La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
L'indépendance ne se donne pas. Ça se prend. Ça s'arrache. Ça se paye en sang et en cadavres. Et je vous le demande, la Martinique est-elle prête à payer ce prix-là?
La Martinique a préféré demander à son député Aimé Césaire qu'il obtienne l'assimilation en devenant un département il y a 70 ans. Et c'est bien vous, Aimé Césaire, qui avez obtenu cette départementalisation. Vous avez même inventé le mot. Vous, le chantre de la négritude, vous, le poète, vous êtes aussi, on vient de l'entendre, un sacré animal politique. Et pour revivre ce grand moment d'histoire, c'est votre voix que nous avons choisi de faire entendre sur RFI. Aimé Césaire, vous qui vous êtes défini comme le nègre fondamental, vous avez écrit « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche ». Et c'est avec Françoise Vergès, politologue et co-auteur du documentaire Aimé Césaire face aux révoltes du monde, que nous allons revivre aujourd'hui le fantastique itinéraire politique de Césaire. Lui, enfant de la colonisation, qui n'a pas demandé l'indépendance de son île, la Martinique, mais son intégration à la République comme département français, c'était le 19 mars 1946. Bonjour Françoise Vergès.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, politologue, chargé du programme culturel du Mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes. Et vous êtes notamment l'auteur d'un livre d'entretien avec Césaire intitulé « Nègre je suis, nègre je resterai » réalisé en 2005, 3 ans avant la mort de Aimé Césaire. Dites-moi, quelle dimension recouvre pour vous le combat politique de Aimé Césaire et comment son œuvre littéraire s'articule avec son action politique?
Je pense que Césaire, c'est à la fois vraiment un moment charnière au XXe siècle, c'est-à-dire entre les années 30, déjà à l'émergence avec la négritude, cette prise de conscience d'un monde noir, d'une présence africaine au monde, qui s'affirme à travers le mouvement de la négritude, mais aussi à travers ses premiers écrits dans L'étudiant noir. Et ensuite, l'homme politique qu'il va devenir, à partir de 45, qui s'accompagne de cette autre personne en lui, qui est le poète, l'écrivain, puis le dramaturge, et qui, je pense, il le disait lui-même, que quand il était poète et écrivain et dramaturge, il se laissait beaucoup plus aller, il se sentait plus libre d'écrire ce qu'il pensait, et que comme homme politique, il avait besoin de tenir compte du contexte et des forces en présence. Donc il est là, c'est pas un double personnage, mais un personnage qui distingue peut-être l'écrivain de l'homme politique.
Aimé Césaire, grand témoin et grand acteur du XXe siècle, né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, en Martinique, une des îles de la Caraïbe, non loin d'Haïti et de Cuba. Aimé Césaire, très bon élève et déjà rebelle, obtient une bourse pour le lycée Victor Schœlcher à Fort-de-France. Mais son objectif, c'est Paris, où il débarque à l'âge de 19 ans.
Je sais simplement que j'étais extrêmement turbulent pendant une époque de ma vie. Je me battais beaucoup, je me battais souvent. Et puis brusquement, il y a une conversion, je suis devenu ce qu'il est convenu d'appeler, extrêmement studieux. À vrai dire, c'était pas du tout contradictoire, parce que tout en étant extrêmement combatif, à cette époque-là, j'aimais déjà beaucoup les livres. J'ai très vite senti, et très tôt senti, que la société martiniquaise dans laquelle je vivais, je n'étais pas en accord avec elle. J'ai très vite sorti que c'était un monde faux. Un monde faux contre lequel, vraiment, je me sentais en rébellion. Et les valeurs qui étaient les valeurs morales, les valeurs ethniques, tout ce côté petite colonie, m'ulcérait à un point que je ne saurais décrire. Ce qui fait, et je ne le cache pas, je n'ai jamais caché, que c'est avec volupté qu'après mon bachot, j'ai quitté la Martinique. J'ai dit, ouf, en fait, je m'en vais.
En septembre 1932, Aimé Césaire entre au lycée Louis-le-Grand et rencontre Léopold Sédar Senghor.
Bonjour. C'est pour les inscriptions.
Oui.
Je m'appelle Césaire, Aimé Césaire.
Comment ça s'écrit?
C-E-S-A-I-R-E. Césaire.
Césaire. Aimé. Il y a un camarade à vous qui est là. Un Léopold de Senghor, du Sénégal.
Je ne connais pas ce Senghor. Je ne suis pas africain.
Ah. Mais je pense que vous n'allez pas tarder à faire sa connaissance.
Bonjour.
Bonjour.
Première année?
Oui.
Une coucagne.
Oui, c'est ça.
Léopold Senghor, agrégation de grammaire.
Bonjour.
Tu veux que je t'emmène vers ta classe?
Très bien. Senghor.
C'est ça. Du Sénégal.
Ah, du Sénégal.
Deux jours après mon arrivée à Paris, j'étais au lycée Louis le Grand. Et qui est-ce que je rencontrais, hein, presque sur le seuil de la porte? C'était celui qui est devenu mon ami, Léopold Sédar Senghor. Autrement dit, l'Europe m'a apporté l'Afrique. Voilà. Un raccourci, hein, le grand don qui m'a été fait. Et ce compagnonnage avec Senghor, cette révélation qu'il m'a faite de la terre première, cette révélation des civilisations africaines m'a profondément marqué. Je n'ai décrypté la Martinique, je n'ai compris la Martinique que par le détour africain. C'est ça qui me paraît la chose fondamentale.
Senghor incite Césaire à creuser toujours plus profondément en lui à la recherche du nègre fondamental.
Je suis d'abord l'homme d'une communauté historiquement située, hein, je suis un nègre et cela est fondamental. Telle est ma définition de mon identité. Bon, j'appartiens donc à une histoire. C'est l'affirmation d'une fidélité, c'est le deuxième point. Autrement dit, dans mon esprit, il n'y a pas de place pour le reniement. Il s'agit de rester fidèle à un certain nombre de choses, à un certain nombre de valeurs, à un certain nombre de cultures. Par conséquent, c'est l'affirmation d'une solidarité. Je me sens solidaire de tous les hommes qui luttent, de tous les hommes qui souffrent, de tous les hommes qui luttent pour la liberté, et d'abord de ceux qui ont le plus souffert et qu'on a trop souvent oublié. Je veux parler des Noirs.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Césaire nous dit qu'il a trouvé en lui le nègre fondamental. C'est l'expérience qu'il fait, lui, l'Antillais à Paris, avec son ami sénégalais Senghor. Tous les deux font leurs études et leur idée secrète, vous a confié Césaire dans le grand entretien qu'il vous a accordé, Françoise Vergès. Leur idée secrète, c'est « nègre je suis, nègre je resterai ». Comment le comprenez-vous ?
Je le comprends comme une fidélité à une histoire, comme une fidélité à quelque chose qui a bouleversé le monde, qui a été la traite négrière et l'esclavage colonial, et qui a fait que des personnes d'origine africaine se sont retrouvées jetées aux quatre coins du monde, comme esclaves, comme personnes asservies, et que on les a fait nègres. Je veux dire, le monde esclavagiste les a fait nègres. Mais en affirmant « nègre, je suis nègre, je resterai », il retournait évidemment un terme qui était un terme péjoratif, il en faisait son identité, il clamait au monde « vous m'avez fait nègre, alors je le suis et je le resterai ». Mais je le serai dans cette fidélité à cette histoire qui a fait de nous donc ces personnes qui resteront fidèles aussi à l'Afrique et qui diront au monde que les Noirs font partie de l'humanité. Sont des êtres humains comme les autres.
Françoise Vergès, n'y a-t-il pas un danger, en quelque sorte, de racisme noir dans cette philosophie ?
Je ne pense pas, parce que, justement, Césaire, ce qu'il veut montrer là, c'est tout, d'abord tout un travail contre quand même une machine idéologique énorme, effrayante, qui dure des siècles et qui transforme le continent anti-africain comme un continent sans histoire, sans peuple, sans culture, sans écriture, absolument une page vide sur laquelle un continent que les Européens peuvent piller et asservir. Donc il y a une affirmation absolument nécessaire, absolument nécessaire. Il y a eu quand même un effet extrêmement terrible, traumatisant de l'esclavage, de rendre des personnes d'origine africaine honteux de leur couleur, honteux de ce qu'ils atteignent. Et cette affirmation leur permet justement de dépasser cela pour redevenir des êtres humains. N'oublions pas que la constitution haïtienne, dans la constitution, dit tous les citoyens de Haïti sont des Noirs. Puisque ce terme avait été le terme allié à l'asservissement, Le fait de dire même donc des personnes de couleur blanche seraient des noirs, c'était de dire ben noir sera aussi la couleur de la liberté. Et c'était cela, c'est cette affirmation. Donc je ne pense pas qu'il y ait de racisme noir.
La négritude, c'est pas pour nous, c'est pas une affaire purement et simplement physique, raciale, une couleur, la qualité des cheveux. Ça ne peut pas ne pas être ça. C'est ça, mais c'est plus encore que ça. C'était une somme de souffrance. C'était une histoire. C'était une douleur. C'était le sentiment d'une oppression. C'était le sentiment d'une exclusion. C'était tout ça pour moi, la négritude. C'était un souvenir. C'était une mémoire. C'était une fidélité. Et c'était la haine de l'injustice, la haine de l'oppression et l'aspiration à la liberté et à l'épanouissement de l'homme. Mais c'est ça, l'humanisme. Et l'humanisme, c'est quoi? C'est passer de ce cas particulier à un cas général. Partout où est l'homme, partout où il souffre, partout où il est humilié, partout où il est écrasé, je pense que là est ma place et là est notre place.
Césaire, chantre de la négritude, a rejoint les jeunesses du Parti communiste dès 1935. Et au sortir de la guerre, en 1945, il est élu maire de Fort-de-France et député apparenté communiste à l'Assemblée nationale constituante. Françoise Vergès, que représente le Parti communiste pour Césaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale?
N'oublions pas que le communisme est encore, et beaucoup au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une espérance, un espoir pour énormément de peuples colonisés. N'oublions pas que l'Union soviétique, avec toutes les critiques que l'on peut faire, a soutenu énormément de luttes anticoloniales, que sans doute des luttes coloniales n'auraient pas été gagnées sans ce soutien financier, logistique, militaire. Il faut le reconnaître aujourd'hui. Ensuite, c'est vrai que l'Union soviétique avait aussi sa propagande et recevait des intellectuels africains-américains ou caribéens extrêmement bien. Césaire est allé plusieurs fois en Union soviétique, très très bien reçu. Et donc le contraste avec le monde européen où ils étaient très mal reçus ou très mal considérés, où ils avaient cette impression constamment d'être victimes de racisme et de discrimination, était extrêmement important. Et ils ont pu avoir l'illusion que voilà, c'était là que pouvait se réaliser un monde non racial.
L'espoir s'est levé sur les peuples colonisés. L'espoir de voir naître de leurs souffrances et de leurs sacrifices un monde plus juste, où leurs devoirs seront équilibrés par un poids égal de droits. Le jour où ces peuples auront le sentiment que cet espoir a été bafoué une fois de plus, ce jour-là, la situation sera grave, parce que le temps et les désillusions auront accumulé des amas d'âmes sèches prêtes à l'incendie. À cet incendie, permettez-nous de préférer la grande lueur qui monte du brasier que vous avez vous-même allumé en 1789 et qui n'a cessé depuis d'obséder l'horizon des peuples parce qu'elle leur apportait, quelle que fût leur race ou couleur, le grand message de fraternité.
Le fameux discours de Césaire à l'Assemblée nationale où il demande la fin du statut colonial. Extrait du film Le prix de la liberté, réalisé par Félix Olivier et produit par Caméra One. Un discours dont nous ne disposons d'aucune archive sonore, mais dont nous avons la trace écrite, Françoise Vergès. Rappelons que le projet de départementalisation des vieilles colonies est porté par les députés martiniquais Aimé Césaire, guadeloupéen Rosanne Girard et réunionnais Raymond Vergès, que vous avez bien connu, je crois.
Oui, c'était mon grand-père.
Que veulent-ils, Vergès, Girard et Césaire?
Je pense qu'il y a un profond sentiment que la République peut offrir quelque chose, peut offrir l'égalité. Pourquoi ne demandent-ils pas l'indépendance alors que le reste des colonies françaises et puis le monde entier est engagé vraiment vers l'effondrement des empires coloniaux? C'est une question extrêmement importante qui est toujours débattue. Je pense que d'une part, on pourrait peut-être aussi se souvenir du passé esclavagiste de ces sociétés et que très souvent dans les sociétés qui ont été esclavagistes, c'est la demande d'égalité, enfin de reconnaissance en tant que citoyen de plein ordre dans la société qui a été esclavagisée qui est extrêmement importante. Si on voit le cas par exemple des Africains américains, on pourrait plus se rapprocher ça du mouvement des droits civiques, c'est-à-dire la pleine reconnaissance d'une égalité, la demande d'une pleine reconnaissance, puisqu'on sait que les lois qui étaient décidées en France n'étaient pas appliquées dans ces colonies. Et donc cette demande. Maintenant, Césaire dira très vite que ça va buter sur une question essentielle, l'identité. Et il est vrai que la départementalisation, en fait, va être un peu le fer de lance d'une assimilation, d'une politique assimilationniste. Ce que Césaire avait vu assez rapidement, et aussi, de fait, aussi, va buter aussi sur la difficulté de l'égalité.
Césaire, animal politique dans la marche du monde, au son de sa voix, nous revivons ses combats, et tout d'abord, celui donc de la départementalisation de la Martinique. C'est Papa Césaire, comme disait Martiniquais, qui invente le mot.
L'action politique, je l'acceptais. Quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, je me suis aperçu qu'il y avait eu au moins 15 propositions de loi qui avaient été déposées par mes prédécesseurs pour ce qu'ils appelaient l'assimilation. Et quand j'ai été élu, l'aspiration essentielle du peuple martiniquais, au point que mandat impératif m'en a été donné, ramenez-nous ce qu'ils appelaient l'assimilation. C'était effroyable pour moi. Et alors, j'ai analysé la situation. L'assimilation est un mot que je déteste. C'est un symbole même, à mon avis, de l'aliénation, donc du colonialisme. Mais soyons calmes. Be cool. Que cache ce mot? Eh bien, je m'aperçois que ce qu'ils veulent, c'est quoi? Ils veulent avoir les mêmes droits que les Français. Ils veulent les mêmes salaires que les Français. Ils veulent être gouvernés d'une manière décente et non pas que tout le pouvoir soit entre les mains d'un homme qui s'appelle le gouverneur. Voilà ce qu'ils demandent. Donc, plus de liberté, plus de dignité, plus de sécurité. Est-ce que cela ne mérite pas que l'on se batte pour de telles choses? Donc, laissons des mots, voyons ce qu'il y a derrière. Ils appellent ça comme ça, mais on peut l'appeler différemment. Et j'ai commencé à l'appeler différemment. Je n'ai jamais employé le mot assimilation. J'ai transformé le mot en départementalisation. Autrement dit, j'ai fait de cette revendication d'assimilation la revendication d'un statut nouveau, d'un statut qui, comme tous les statuts, est purement technique, donc précaire et révocable. C'est le département. Ça peut être autre chose demain. Tandis que l'assimilation est une chose qui est profonde, qui est intime, qui est personnelle, qui vous marque à jamais. C'est le refus de soi-même, c'est un reniement de soi-même. Et jamais je n'ai voulu cela.
Pourquoi Césaire défend la départementalisation plutôt que l'indépendance? Écoutez la version de Pierre Aliker. Il a été le bras droit de Aimé Césaire à la mairie de Fort-de-France pendant 50 ans. C'était plus économique qu'idéologique, nous dit-il.
Quand on voyait ce qui se passait en France au point de vue social, les députés n'ont fait qu'obéir à une pulsion populaire. Parce que ce peuple qui vivait dans la misère aspirait à être traité comme département, passer de vieille colonie à un département pour bénéficier des avantages sociaux. C'était plus économique qu'idéologique.
Nous brossons le portrait politique d'Aimé Césaire dans la marche du monde. Au son de nos archives et du documentaire Aimé Césaire face aux révoltes du monde, coécrit par notre invitée Françoise Vergès, juste après les infos sur RFI.
Césaire a été au début du siècle celui qui a déchirer la carte postale pour reprendre une de ses expressions. Parce qu'après l'abolition de l'esclavage, il faut dire qu'il y a eu une espèce d'exotisation de la réalité antillaise. Donc une espèce de littérature exotisante et de pensée exotisante des Antilles que Césaire est venu au début du XXe siècle déchirer. C'est-à-dire qu'il a dit attention, c'est pas parce que l'abolition s'est produite que les choses ont réellement changé. L'exploitation continue. Le déni de réalité continue. Le mépris envers la couleur noire et l'Afrique continue.
Nous sommes ici depuis 300 et quelques années. Ça fait pas mal de générations. Je n'ai pas le chiffre en tête exactement.
C'est facile à mener, les ouvriers noirs?
Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Suite de la Marche du Monde consacrée à l'œuvre politique du poète Aimé Césaire. Il est l'artisan de la départementalisation des vieilles colonies. En effet, la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique sont devenus des départements français le 19 mars 1946. Sa voix nous rappelle pour toujours et à jamais combien son œuvre est éminemment engagée.
Très tôt, j'ai compris que nègre, homme de couleur, colonisé, appartenant à une société opprimée, je n'ai pas le droit de me croiser les bras et d'avoir pour idéal l'art pour l'art. Très tôt, et sans débat aucun, j'ai compris que, tout naturellement, il fallait être un homme engagé.
Lui, Césaire, le Martiniquais, avec Senghor, le Sénégalais, tous les deux, ils ont inventé le concept de la négritude pour comprendre qui ils étaient et enfin libérer leur peuple de la vieille Europe et de sa mission civilisatrice. Et pour en parler, nous retrouvons notre invitée, Françoise Vergès, co-auteure du documentaire « Aimé Césaire face aux révoltes du monde ». Françoise Vergès, bien que Césaire ait rejoint au Panthéon les figures associées au combat contre l'esclavagisme et le colonialisme, a-t-il vraiment toute sa place aujourd'hui dans le récit de l'histoire nationale, dans l'histoire de France ?
Loin de là, très très loin de là. Il n'est toujours pas enseigné suffisamment dans les lycées, il n'est pas enseigné à l'université, ce n'est pas devenu de texte familier à tout le monde. Il y a des tas de gens à qui vous pourriez demander qui est Aimé Césaire et qui ne le sauraient pas. Ses pièces ne sont pas suffisamment jouées, il n'est pas suffisamment connu, il est bien loin, alors que c'est un des plus grands poètes de langue française et dramaturge, et puis il a écrit deux textes, Cahier d'un retour au pays natal et Discours sur le colonialisme, qui sont des textes incontournables si on veut comprendre ce qui s'est passé au XXe siècle, et des textes qui sont toujours d'actualité.
Alors je sais que vous aimez particulièrement ces mots de Césaire, je le cite, « Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter ni la poudre ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni les ciels, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Pourquoi ?»
Parce que j'ai aussi grandi dans une île colonisée qui avait connu l'esclavage et mes parents étaient des militants anticolonialistes qui appartenaient au Parti communiste réunionnais. Et nous allions très souvent rencontrer ces personnes qui étaient totalement comme inexistantes dans l'histoire. Moi j'étais à l'école, je n'apprenais rien sur eux. Donc cette transformation de personnes en personnes qui ne comptent pas, dont les vies peuvent rester anonymes, m'a très très tôt révoltée. Et cette phrase de Césaire, c'est pour moi un programme. Comment justement se battre pour faire que ceux et celles sans qui la terre ne serait pas la terre soient des vies connues et reconnues.
Alors justement, rappelons l'entrée en politique de Césaire. Elle s'est faite sur la liste du Parti communiste en Martinique en 1945.
J'étais tout à fait conscient qu'il fallait se battre pour mon peuple. Il se trouve que la guerre m'a encore renforcé dans l'idée du nécessaire engagement de l'intellectuel, et plus encore dans un pays colonisé. Et lorsque le Parti communiste a eu l'idée de faire une liste, la première liste, à propos des élections municipales en 1945, ils ont pensé à mettre sur la liste non seulement des communistes purs, mais aussi des gens qui avaient des sympathies à gauche, et lorsqu'ils m'ont demandé de figurer sur la liste, je n'ai pas cru devoir refuser. J'ai accepté, mais je n'avais pas du tout pensé que nous allions être élus, parce que le score du Parti communiste avait été presque symbolique avant la guerre. C'est une très grande surprise pour moi d'avoir été élu, et j'avoue que j'avais un peu l'impression qu'il y avait une cheminée qui me tombait sous la tête. Mais enfin, élu, il fallait faire face. Il fallait s'y mettre et je me suis mis.
Maire, puis député apparenté au Parti communiste, Césaire a défendu la départementalisation pour les vieilles colonies, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane française. Mais 10 ans plus tard, en 1956, il quitte l'EPC.
Je crois en avoir assez dit pour faire comprendre que ce n'est ni le marxisme ni le communisme que je renie. Que c'est l'usage que certains ont fait du marxisme et du communisme que je réprouve. Que ce que je veux, c'est que marxisme et communisme soient mis au service des peuples noirs et non les peuples noirs au service du marxisme et du communisme. Que la doctrine et le mouvement soient faits pour les hommes et non les hommes pour la doctrine ou pour le mouvement. Et bien entendu, cela n'est pas valable pour les seuls communistes. Et si j'étais chrétien ou musulman, je dirais la même chose. Qu'aucune doctrine ne vaut que repenser par nous, que repenser pour nous, que convertir à nous. Cela a l'air d'aller de soi. Et pourtant, dans les faits, cela ne va pas de soi. Et c'est ici une véritable révolution copernicienne qu'il faut imposer, tenter enraciner en Europe et dans tous les partis et dans tous les domaines, de l'extrême droite à l'extrême gauche, l'habitude de faire pour nous, l'habitude de disposer pour nous, l'habitude de penser pour nous, bref, l'habitude de nous contester ce droit à l'initiative dont je parlais tout à l'heure et qui est en définitive le droit à la personnalité. C'est sans doute là l'essentiel de l'affaire.
Lettre à Maurice Thorez, 1956.
Pour moi, ça ne suffisait pas d'être communiste. Ça ne suffisait pas. C'est bien. Et j'aimais beaucoup mes camarades communistes. Mais je savais qu'en plus, il y avait quelque chose d'irréductible, c'est le fait que je suis noir, tout simplement, et que c'est un homme de couleur, et que cette conscience-là n'était pas tranchée. Pour moi, il ne suffisait pas d'être communiste. Vous savez, je n'ai jamais aimé ni le paternalisme, ni le fraternalisme. Non, c'est toujours la même illusion. Quoique la révolution sociale va résoudre tous les problèmes. Moi aussi, j'ai eu cette illusion. La question du racisme, c'est une question à part. Et sans doute, la révolution sociale était une des conditions de la solution de ce problème, mais ce n'est qu'une des conditions et que cela ne suffit pas. La preuve, on peut très bien être communiste comme Staline et puis envoyer des gens au pogrom, non ? On peut assassiner les médecins juifs. Bon, très vite, j'ai eu ce sentiment-là, que cela ne suffisait pas. C'était une condition nécessaire, mais qui n'était pas suffisante.
Aimé Césaire ne se retrouve plus dans l'idéologie du Parti communiste en 56. Rappelons que 56, c'est l'année du rapport Khrouchtchev qui dénonce les crimes du stalinisme. Rappelons que ce sont les années où l'Empire français se délite, car c'est aussi depuis 54 la guerre d'Algérie. Et la position du Parti communiste sur l'Algérie ne convient pas non plus à Césaire. Alors pour quelles raisons, Françoise Vergès?
C'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que même la gauche, enfin les mouvements progressistes oui. français ont été contaminés, on pourrait dire, par l'idée raciale malgré tout. Et l'idée que bien sûr les Noirs et les colonisés étaient des frères, mais un peu des petits frères. Ce n'est pas tous les communistes, mais en tout cas dans les instances dirigeantes et puis dans les textes, et enfin dans une manière de faire, de concevoir que le peuple algérien n'était pas un peuple, par exemple, on le sait. À un moment donné, ça constitue un mur, un obstacle. Ça ne rend pas le travail commun possible, ça ne rend pas la solidarité possible. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis le 18e, 19e siècle, dans le mouvement féministe, dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement communiste, dans tous les mouvements socialistes. Vraiment, ils ont assimilé l'idée, malgré tout, que la France avait une mission civilisatrice. C'est-à-dire qu'il y a vraiment partout l'incroyable mépris que pouvaient avoir les peuples les États européens pour les peuples du reste du monde, de 80% de l'humanité.
Il est exact que j'ai quitté le Parti communiste français. Mais je n'en reste pas moins du côté du peuple martiniquais et communiste martiniquais. Pendant 10 ans, j'ai combattu le capitalisme et le colonialisme dans les rangs du Parti communiste français. J'ai acquis la conviction que le peuple martiniquais ne doit pas attendre le salut du dehors, qu'il doit prendre sa cause en main, qu'il doit étudier lui-même ses problèmes, déterminer sa propre voie et inventer ses propres solutions.
Et pour toutes ces raisons, Césaire crée le Parti progressiste martiniquais en 1957.
Eh bien camarades, c'est parce qu'il y a des départementalistes obtus. Et c'est aussi parce qu'il y a des indépendantistes aventureux qu'il faut qu'il y ait un PR.
La Marche du Monde revient sur l'itinéraire politique d'un des plus grands écrivains français, Aimé Césaire, au son de nos archives et du documentaire Césaire et les révoltes du monde, coécrit par notre invitée Françoise Vergès. Maire de Fort-de-France, députée de Martinique, Césaire siège à l'Assemblée nationale française. Il est acteur, il est témoin de ce grand basculement du XXe siècle, l'émergence du tiers-monde.
À Bandung, capitale de l'Indonésie, s'est clôturée la conférence afro-asiatique qui intéressait 29 nations, groupant 1,5 milliard d'habitants du globe. Grande vedette de ces assises, l'Égyptien Nasser, l'Indien Nehru et le Chinois Chou Enlai y ont lancé les bases d'un axe Le Caire-Delhi-Pékin.
L'Égypte, l'Inde, la Chine déboulent sur la scène internationale à Bandung en 55, puis en 56 en Hongrie, les Soviétiques, eux, envoient les chars.
C'était une révolte profonde, de combattants sans chef, mais unis par ce désir commun de liberté contre une tyrannie insupportable. Ces symboles détestés devaient disparaître des horizons hongrois.
Césaire ne reste pas indifférent à ces révoltes du monde. Il participe au premier congrès des intellectuels et des artistes noirs, organisé par Alioune Diop, fondateur de Présence Africaine, qui voulait réaliser un Bandung culturel. Césaire est à nouveau au cœur d'un mouvement intellectuel et culturel d'affirmation du monde noir.
Qu'est-ce à dire ? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture. C'est dans ce sens que l'on peut dire que la réunion historique de Bandung n'a pas été seulement un grand événement politique, il a été également un événement culturel de premier rang, car il a été le soulèvement pacifique d'un peuple affamé non seulement de justice et de dignité, mais aussi de civilisation et de culture. Nous sommes là pour dire et pour réclamer, donner la parole au peuple noir, laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire.
Françoise Vergès, vous l'avez dit, vous avez insisté, Césaire, c'est l'auteur du fameux discours sur le colonialisme. Il faut rappeler aux auditeurs que ce discours, ce texte, a des mots extrêmement durs à l'égard de l'Europe.
Extrêmement durs. Il parle d'une Europe indéfendable. Souvenez-vous qu'il dit aussi que ce que les Européens ont trouvé de terrible avec Hitler, ce n'est pas le crime qu'il a commis contre l'être humain, c'est le crime qu'il aurait commis contre l'homme européen. L'humiliation de l'homme européen. Donc ce qu'il trouve scandaleux dans le nazisme n'est pas le crime en lui-même et donc le crime contre l'humanité que constitue justement une pensée raciale et une pensée d'expansion coloniale, mais le fait que ça a été fait à des Européens. Et là, il dit, ben voilà, ça c'est un problème profond. Parce qu'en fait, ce que vous avez fait aux peuples partout, c'est détruire leur culture, prendre leurs richesses, détruire leur peuple, c'est ce qu'on vient de vous faire. Et donc ce discours est extrêmement, c'est un des premiers qui fait ce lien entre la barbarie coloniale et la barbarie ravageant l'Europe et qui sera effectivement profondément mis en question par des Européens, des intellectuels français. Mais je pense que dans ce discours sur le colonialisme, il est toujours présent parce que ce qu'il y a aussi là-dedans, c'est une critique profonde de ce qu'est la colonisation. L'impulsion à coloniser, cette impulsion à aller dans le monde, prendre des terres aux gens, les déplacer, et qu'il y a aujourd'hui de nouvelles formes de colonisation que nous pouvons observer partout dans le monde, de nouveau des programmes de déplacement de population, de décider que le fleuve passera par là, que des barrages seront construits ici, que on va construire des routes pour transporter telle richesse à telle richesse sans tenir compte des besoins des populations locales. Et en cela, le discours sur le colonialisme est toujours contemporain.
Alors à la relecture de ce discours sur le colonialisme, est-ce que la vision de Césaire n'est quand même pas une vision un peu angélique d'un monde d'avant la colonisation, présenté comme harmonieux, pur, idéal?
Oui, Césaire idéalise l'Afrique, notamment idéalise. C'est une idéalisation qui a longtemps eu effectivement force de loi. L'idée qu'il y avait un monde précolonial toujours un peu plus harmonieux. Le monde précolonial n'est pas plus harmonieux, il est différent. Il y avait en Afrique, sur le continent africain, des royaumes, des guerres, de l'esclavage, de la traite. Mais il y avait aussi du commerce. l'Afrique, le continent africain commerçait avec l'Asie, avec la Méditerranée. Il y avait des développements qui auraient pu connaître d'autres formes. On ne le sait pas, on ne peut pas le dire. Et là, c'est ça qui est important. Mais il est vrai que Césaire idéalise l'Afrique comme il va idéaliser aussi peut-être ce que peut être la civilisation noire.
Césaire révolté, qui soutient les révoltes du monde, notamment celle des Algériens, une révolte qui déborde en métropole, où les manifestations de soutien aux indépendantistes se multiplient.
Le problème de l'Algérie a violemment opposé les étudiants. Différentes réunions qui se sont déroulées dans quelques grandes villes de France ont débordé leur caractère de simple manifestation. À Lyon et surtout à Paris, des contre-manifestants obligèrent la police à intervenir. Au quartier latin, 3000 gendarmes et gardiens de la paix se sont heurtés à 15 000 étudiants de toutes tendances.
L'Algérie déborde en métropole, mais aussi en Outre-mer, sur l'île de Césaire, comme me le raconte Gilbert Pagot, agrégé d'histoire et professeur à Fort-de-France. 1959, c'est l'année de la révolte sociale en Martinique.
1959, c'est vraiment l'événement le plus spectaculaire. Mais en fait, depuis 1956, il y avait déjà le feu qui couvait sous la cendre. Mais 1959, c'est vraiment l'année où tout bascule. Pourquoi ? Parce que sur le plan intérieur, c'est l'arrivée des anciens des colonies françaises, en particulier d'Afrique du Nord, ceux qui avaient fui le fait que la Tunisie et le Maroc étaient devenus indépendants, ceux qui avaient fui la guerre qui commençait en Algérie depuis 1954, ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'installation de la loi Cap de Fer en Afrique noire. Beaucoup d'anciens fonctionnaires, beaucoup d'hommes d'affaires sont venus s'installer ici avec la mentalité colon qu'ils avaient acquise en Afrique et en Afrique du Nord et qui ne pouvaient pas s'appliquer ici à la Martinique dans la mesure où la Martinique faisait partie de ce qu'on appelle les vieilles colonies et que les Martiniquais avaient théoriquement le statut de citoyen français depuis 1848, depuis plus d'un siècle.
Donc la tension monte, en fait. Oui. Il y a une incompréhension croissante, et puis des heurts, jusqu'à ces fameux incidents de décembre 59. Et vous êtes là, vous avez quel âge, et que se passe-t-il? Que voyez-vous?
En 59, j'ai donc 13 ans, et nous sommes sur la savane avec les lycéens, nous sommes là. Et là, il y a un affrontement qui part sur un incident banal, un heurt entre un ancien d'Afrique du Nord et un local, un autochtone. Et là, c'est surtout l'intervention sauvage et brutale des CRS qui met le feu aux poudres parce qu'ils bastonnent tout le monde, ils envoient des grenades lacrymogènes qui étaient inconnues à la Martinique, on n'avait jamais vu ça. Donc la population a eu l'impression qu'on voulait l'asphyxier, qu'on voulait la tuer. Et puis, cette répression qui fait 3 morts et la population qui, naturellement, se dresse contre les CRS et contre ces anciens d'Afrique du Nord pendant 3 jours, au point que le gouvernement du général de Gaulle est obligé d'interdire les CRS. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, il n'y a plus de CRS à la Martinique parce que la population ne supportait pas ces compagnies républicaines de sécurité.
Quels sont les slogans que l'on entend dans ces manifestations?
Eh bien, les slogans, c'est le départ des CRS. C'est aussi des slogans parce que les gens demandent plus d'emplois. C'est la fin du racisme, c'est le départ de tous les chefs racistes. Et puis, il n'y a pas dans les manifestations, mais à côté des manifestations, les hommes politiques qui sortent d'émotion sous le coup de l'émotion et qui sortent d'émotion demandant l'égalité des droits. D'ailleurs, il y a la fameuse formule, ils disent « nous ne sommes pas des Français à part entière, nous sommes des Français entièrement à part ». C'était la formule qui a fait florès à partir de cette époque.
Et dans le documentaire « Césaire et les révoltes du monde », d'autres témoins de 59 en Martinique racontent.
Eh bien, nous étions soupçonnés de fomenter une action subversive avec des actions armées, avec l'aide tutélaire de Fidel Castro. Ils ont beaucoup cherché les rapports que nous pouvions avoir avec l'étranger, beaucoup chercher des armes, etc. À l'époque, la garde à vue pour ce chef d'occupation était de 15 jours. C'était atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité du territoire. Césaire a toujours été d'accord pour témoigner. Je l'ai rencontré à Paris à cette époque-là. Il a toujours été d'accord.
D'ailleurs, on l'a même fait entrer, avant même le public, on l'a fait entrer dans la salle et il a dit « je suis venu voir les lions en cage ».
Verdict ce matin au palais de justice de Paris, à l'issue du procès contre 18 jeunes Martiniquais accusés de menées autonomistes. Concernant les 5 condamnés, le tribunal a émis le raisonnement suivant. s'ils ne se sont pas rendus coupables de complot à proprement parler, ils sont passés aux actes dans des conditions telles qu'on peut retenir à leur égard un début de conjuration qui est réprimé par le code pénal.
Aimé Césaire, député de la Martinique, soutient les jeunes manifestants de 59. À travers eux, quelle cause défend Aimé Césaire ?
Il y avait une demande à l'époque qui émerge d'autonomie, puisqu'on voit finalement l'échec de la départementalisation, et beaucoup de partis de gauche, Parti communiste et d'autres, et le PPM d'ailleurs, le Parti de Césaire, vont demander l'autonomie, c'est-à-dire de pouvoir décider eux-mêmes des objectifs économiques, sociaux, du développement justement. N'oublions pas que toutes ces années sont des années de grande répression dans ces outre-mer. On l'oublie souvent parce qu'on pense évidemment surtout à la guerre d'Algérie, et on oublie qu'il y a eu des choses en Martinique. Il y a eu en la Guadeloupe, il y a eu la Réunion, que 1960, c'est l'ordonnance de Bray qui va permettre l'expulsion du jour au lendemain de fonctionnaires, de dizaines de fonctionnaires, qui étaient des dirigeants souvent syndicaux et des dirigeants politiques, donc de casser les mouvements dans les Outre-mer. Il faut toujours voir cette histoire coloniale et post-coloniale en relation l'une avec les autres. Surtout pas en territoire, si ce qui passerait en Algérie n'aurait pas eu d'effet sur ce qui se passe en Martinique, ou ce qui se passe à Cuba n'aurait pas eu d'effet, ou ce qui se passe dans l'océan Indien, à Madagascar ou ailleurs. Donc il y a une histoire à réécrire, en fait, de toutes ces périodes. Et Césaire, en fait, à travers ça, il défend évidemment une jeunesse absolument révoltée, même s'il ne partage pas toujours, hein, on le sait, toujours leurs objectifs. Mais ce qu'il partage avec eux, c'est le fait que on est toujours quand même très maltraité.
Et une demande d'égalité.
Parce une demande d'égalité qui n'est
après
toujours pas.
Des dizaines d'années, il n'y a toujours pas les mêmes droits.
Il n'y a toujours pas les mêmes droits. Et puis, il reste, vous savez, cette idée de l'outre-mer, et où finalement, on appartient à la France, mais on n'appartient pas vraiment. On appartient à la République, mais pas vraiment. Et on le sait encore aujourd'hui, la France reste l'Hexagone. L'idée de la France, c'est l'idée de l'Hexagone. Et donc, la France ne sait pas comment refaire du commun, retravailler ce que pourrait être le lien. Ces territoires ont chacun des langues, chacun des histoires, chacun des mémoires différentes les unes des autres. Et donc, comment on va travailler ce que nous avons en commun ?
Parlons d'un des derniers combats de Césaire qui vous est particulièrement cher, Françoise Vergès. C'est celui pour la mémoire de l'esclavage.
Nous voulons que soit célébré le souvenir du martyr et de l'héroïsme des héros anonymes issus tous de ces peuples jamais résignés qui périodiquement se levèrent génération après génération pour revendiquer et pour combattre la commémoration dans des conditions de dignité de la date anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1848. Permettra aux Antillais et aux Réunionnais de prendre une plus claire conscience de leur passé, ainsi d'être ainsi mieux à même de préparer leur avenir. Elle permettra à tous de se rappeler que le combat, le séculaire combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité n'est jamais entièrement gagné et que c'est tous les jours qu'il vaut la peine d'être livré.
Je vous invite à conclure sur cette question de la mémoire de l'esclavage selon Césaire. D'ailleurs, je suis frappée à chaque fois par sa véhémence et par la beauté de la langue de Césaire. Est-ce que le danger, c'est pas de mettre l'accent sur la mémoire de l'abolition de l'esclavage et d'occulter en quelque sorte la mémoire de la traite négrière, Françoise Vergès?
Bien sûr, et puis il faut toujours rappeler que ce sont les esclaves qui ont été les premiers abolitionnistes, les premiers anti-esclavagistes. Il faut toujours rappeler le combat. Il faut aussi peut-être, je pense, rappeler que cela a été très long et très difficile. On l'oublie. Si on parle de l'abolition de l'esclavage, on met la fin avant le début, si vous voulez. Donc, ça se termine bien. Mais on ne parle pas des 4 siècles qui ont précédé. 4 siècles. Il a fallu 4 siècles pour que l'esclavage devienne illégal. C'est donc très long. Comment se fait-il que la France, l'Europe, accepte de poursuivre ce qui est déjà quand même vu comme un crime dès le XVIIIe siècle? Et ça, c'est vraiment profond. Ça, c'est une première chose. D'autre part, je pense que la mémoire aujourd'hui, l'utilisation du terme de mémoire dont on sait qu'il a fait controverse en France, de manière, je pense, assez ridicule, je pense qu'à travers la mémoire, ce que des groupes demandent, c'est une autre manière d'écrire l'histoire. C'est d'entendre les victimes, d'entendre les témoins, et que leur voix fasse partie du récit. et que les esclaves redirent que c'était chaque fois une femme, chaque fois un homme, c'était chaque fois une personne, un être humain. Ce n'est pas une masse de gens indistincts, c'est chaque fois quelqu'un qui est né, qui a eu un père et une mère, qui a pensé, qui a rêvé de liberté, qui a voulu que ses enfants s'en sortent bien. Et tout la lutte des esclaves, la lutte quotidienne, a été justement de gagner un peu plus de liberté. C'est un idéal extraordinaire et une leçon extraordinaire de courage pour nous aujourd'hui.
Une voix, celle de Françoise Vergès, qui se conjugue merveilleusement finalement avec celle d'Aimé Césaire. Merci Françoise Vergès. Je rappelle que vous avez présidé le comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage de 2009 à 2013 et que vous êtes responsable de la programmation culturelle du mémorial de l'abolition de l'esclavage. C'est à Nantes. Vous avez entre autres signé ce livre, Nègre, je suis, nègre, je resterai, ce livre d'entretien avec Aimé Césaire. Césaire, animal politique, c'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Sophie Janin avec les archives de RFI. Retrouvez-nous sur la page Facebook de l'émission, écrivez marche.monde@rfi.fr, podcastez cette émission, c'est la vôtre.